Donc aujourd'hui, nous allons lire hein, Luc chapitre 2, verset 8 à 20. Luc chapitre 2, verset 8 à 20. Il y a une partie des versets qui ont été cités tout à l'heure pendant la présidence, mais on va reprendre hein, du verset 8 à verset 20. Il y avait dans cette même contrée, on nous situe géographiquement maintenant, Luc nous ramène comme si on veut, il veut que nous soyons là. Dans nos pensées, on va cartographier l'endroit dont il parle. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Verset 20, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous avons commencé par le verset 8. Luc nous amène maintenant dans le lieu où se passe quelque chose. Il y avait dans cette même contrée, il faut lire juste les versets précédents du Luc chapitre 2, il veut que nous comprenions que géographiquement, on est aux environs de Bethléem. Bethléem, c'est la ville de David, le lieu où doit naître le Sauveur, selon le prophète Michée. Nous l'avons lu tout à l'heure, Michée 5, verset 1. Magnifique. Dieu, pour accomplir cette prophétie, va se servir de l'empereur romain César Auguste, qui va faire déplacer Marie et Joseph de la ville de Nazareth. Nazareth, c'est dans la Galilée, au nord. Et situé à 150 km de Bethléem. Il va le faire déplacer de Nazareth pour faire 150 km pour se retrouver à Bethléem, au sud, donc en Judée. Pourquoi? Pour accomplir la promesse que nous lisons dans Michée 5, verset 1 et 2. Pourquoi César Auguste a fait un recensement? Tout simplement qu'à cette époque, il faut le savoir, que tous les 14 ans, Rome procède à un recensement pour des raisons tant militaires que fiscales, pour les impôts. Donc, chaque juif doit retourner dans la ville de son père pour y faire enregistrer son nom, sa famille, sa profession, et ses biens, hein, pour les impôts. Et ce qui est magnifique, tout se passe conformément aux Écritures. Hein. Et César Auguste, il joue un rôle important sans le savoir, en faisant un édit pour déclencher ce recensement. Magnifique, c'est Dieu qui détient l'histoire. César Auguste gouvernait, mais c'est Dieu qui dirigeait. Il en est de même aujourd'hui. Vous savez, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, dans le texte que nous venons de lire, hein, a choisi de mentionner dans ce récit des acteurs principaux. Vous le remarquez, ces acteurs principaux sont les bergers. Pourquoi Luc Dans son récit, met comme acteurs principaux les bergers. Parce que il veut, pour nous aujourd'hui, ce texte, nous le trouvons dans la parole de Dieu, pour que nous puissions apprendre de ces bergers qui reçoivent un message de l'ange, peut-être Gabriel, le texte ne nous le dit pas, qui leur apporte la bonne nouvelle, et que nous pouvons apprendre aujourd'hui comment répondre au message de Noël. Le récit est là, les bergers sont là pour nous apprendre comment répondre au message de Noël. Et c'est le titre que je donnerai à ce message. Donc les bergers sont là et nous allons regarder comment ils ont répondu au message de l'ange. Je relève trois choses ce matin dans ce passage. Comment les bergers ont réagi au message de l'ange? Je constate dans le passage par une écoute attentive du messager que l'ange. Comment les bergers ont réagi au message de l'ange? Par le fait de ne pas craindre. Comment les bergers ont réagi au message de l'ange? Par la possibilité de faire la paix avec Dieu. Nous allons regarder ces trois points rapidement ce matin. D'abord, par une écoute attentive. Vous savez, un ange, mettons-nous un peu dans le contexte, s'adresse à des bergers anonymes. On ne donne pas dans le passage leur nom. Qui sont-ils? Et ce premier point, je parle d'une écoute attentive qu'on doit tirer comme leçon de leur réaction face au messager, l'ange qui leur annonce une bonne nouvelle. Mais avant de regarder cela, il faut se poser la question, mais pourquoi ils s'adressent aux bergers, non pas aux scribes, non pas aux prêtres, ni même à César Auguste l'empereur, mais à des bergers. Il faut se plonger dans le contexte que, il faut se rappeler que dans la société de l'époque, les bergers étaient des paysans tout au bas de l'échelle sociale. Tellement bas qu'ils étaient même en dessous. Les bergers sont considérés comme des parias. En Israël, à cette époque, paria c'est exclu. Mis au banc de la société, laissé pour compte. Et vous savez que même leur témoignage n'était pas recevable dans un procès. Et Dieu a choisi de s'adresser au berger, le plus bas de la société de l'époque. Un ange leur apparaît pour annoncer l'heureux événement. Et après, nous lisons qu'un cœur d'ange le rejoint pour clamer des louanges. N'oublions pas, pour la première fois après 400 ans de silence, après le dernier prophète de l'Ancien Testament, cette fois-ci de nouveau, on voit la gloire de Dieu apparaître après 400 ans de silence de la part de Dieu. Oui, Dieu s'adresse aux bergers pour nous révéler la grâce de Dieu en faveur de l'humanité. Nous, on s'incline et on a parfois, si vous voulez, on est impartial dans le sens que quand c'est quelqu'un de très élevé, c'est vrai qu'il faut, il mérite le respect. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il s'adresse à tout le monde, à toute l'humanité, y compris même les plus bas de la société de l'époque, les bergers. Dieu n'appelle pas les riches, les puissants, il appelle les pauvres et les humbles. Et vous savez même comment Dieu travaille. Dieu travaille en avançant son royaume, en choisissant les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, dit Paul. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Voilà, mais revenons maintenant à notre premier point, pourquoi peut-on parler d'une écoute attentive des bergers? Regardez dans le texte. Luc fait des liens entre ce que dit l'ange et les réactions des bergers face au message de l'ange. Regardez les verbes utilisés. Verset 10, mais l'ange leur, les bergers, dit. Dire, il y a un message qu'il annonce. Verset 15, les bergers se dirent les uns aux autres, allons. C'est la réaction tout de suite face au message, n'est-ce pas? Il est dit ce que le Seigneur nous a fait connaître. Dieu s'est révélé pour faire connaître le message. Verset 17, nous lisons, après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit. Vous voyez, le messager, l'ange. Et la réaction, ils racontèrent. Verset 20, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. Ils avaient entendu, ils ont répondu. Et nous lisons leur réaction, glorifiant et louant Dieu au sujet de ce qui leur avait été annoncé par l'ange. Donc, en résumant, qu'est-ce qu'on peut dire? Les bergers apprennent auprès des anges la naissance du Sauveur. Verset 9 à 12. Au verset 15, ils se rendent sur place pour constater d'eux-mêmes ce que dit l'ange. Et au verset 17, ils témoignent de ce que les anges leur annonçaient. Vous pouvez voir au verset 18, ils ajoutent même leur propre témoignage visuel au message. Ils racontent ce qui leur avait été dit. Quelque chose qui m'a frappé en étudiant ce texte. Ceux qui entendent les bergers sont dans l'étonnement qui nous est rapporté par Luc. Mais il ne nous est pas dit qu'ils se mettent à croire. Le message est cependant beaucoup plus efficace auprès des bergers. Vous faites un contraste, n'est-ce pas? Nous lisons verset 20, les bergers s'en retournèrent, glorifiés, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Tandis que ceux qui ont écouté le message rapporté par les bergers, ils étaient dans l'étonnement. C'est tout. Il n'est pas marqué qu'ils ont cru, pas du tout. Notez que les bergers ont été plus fortement touchés que les autres. Est-ce dû au fait, je me pose la question, peut-être parce qu'ils ont entendu le message de la bouche des anges, alors que les autres l'ont entendu de celle de simples bergers. C'est une question. Je trouve quelque chose qui peut nous être utile dans ce que je viens de dire ici. Le contraste entre la réaction de bergers qui ont tant et réagit face au message de la part d'un ange et les autres dans l'étonnement face aux messagers qui sont les simples bergers. Oui, il est extrêmement facile de ne pas écouter la parole de Dieu parce qu'elle est prêchée par un homme pécheur. Pourquoi? Parce que nous concentrons notre regard sur le messager faillible, limité, inadéquat, parfois un lion. Quand nous concentrons nos pensées sur le messager et non pas sur le message, le danger est là. Oui, il est facile de ne pas écouter attentivement la parole de Dieu quand vous êtes porté votre regard sur le prédicateur, sur ses failles, sur ses limites, sur son manque d'éloquence, tout ce qu'on peut dire. Et on passe à côté du message que Dieu peut partager à travers nous. Rappelez-vous de Balaam. ce récit est là pour nous montrer que Dieu peut parler à travers n'importe quoi. Et vous savez, pour parler à Balaam, Dieu se sert de quoi? D'un âne. C'est l'intermédiaire que Dieu utilise pour s'adresser à Balaam. C'est pour dire tout simplement, ne tardez pas, ne focalisez pas le regard sur le messager, mais écoutez la parole de Dieu portée par le messager. Ça, c'est la chose pour nous. Et vous savez, dans le texte, si vous avez remarqué, pour nous encourager à une écoute attentive, hein, il va citer au verset 19 l'exemple qu'il faut imiter pour nous aujourd'hui, l'exemple de Marie. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je retiens deux verbes. Garder. Garder dans l'esprit une chose, pourquoi? De peur qu'elle ne soit oubliée. Garder, c'est conserver une chose pour qu'elle ne soit pas perdue. Peut-être comment ça pourra se faire? En méditant ce que Marie a entendu des bergers. Elle l'a fait comme ça, j'imagine. Mais il y a quelque chose encore plus pratique pour nous. Pas seulement garder, ça c'est important, mais le repasser dans son cœur. Cette expression fait référence à nos émotions, à notre cœur. Comme le psalmiste verbalise, « Je sers ta parole dans mon cœur. » Repasser la parole dans le cœur veut dire laisser la parole de Dieu me toucher profondément. C'est ce que Marie fait. Elle s'est laissée à ce que la parole de Dieu transperce son âme, touche la profondeur de son être, son cœur. Pratiquement, me poser la question, quand le message est précis, en quoi ma vie serait-elle différente si je croyais réellement du fond du cœur à cette vérité? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça ferait de ma vie? Qu'est-ce qui changera grâce à ce message? Comment mes pensées, mes émotions, mes actes seraient-ils changés? Comment cela peut modifier mes rapports avec les autres? Comment cela peut changer ma vie de prière, mes sentiments et mon attitude vis-à-vis de Dieu? Imitant, chers frères et sœurs, Marie, l'exemple de la personne comme les bergers qui avait une attitude d'écoute attentive. Nous sommes si distraits facilement et qui peut nous engendrer des déficits d'attention. Parce que nous nous attardons sur les messagers et nous passons à côté du message que Dieu veut nous faire passer à travers des choses faibles pour nous instruire. Et donc faisons attention. Les bergers nous donnent un bel exemple, ainsi que Marie ici. Deuxième attitude que l'on peut apprendre aux bergers pour répandre le message de Noël, ne pas craindre. Je n'ai pas regardé dans les autres évangiles, j'ai regardé juste dans l'évangile selon Luc. Ne craignez point, cet impératif est répété déjà en Luc 1,13 pour Zacharie. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc 1,30. L'ange lui dit, ne crains point. Le même message à Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 2,10, nous y sommes. Il est adressé au berger. Et pourquoi il est adressé au berger? Tout simplement parce que nous lisons juste verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est quelque chose de normal, ça sort de l'ordinaire. Mais effrayé, c'est le cas de ces bergers. Quand on est confronté à quelqu'un, quelque chose extraordinaire, Christ. Donc on est pris de frayeur. Le message pour nous aujourd'hui, quel est le remède face à la crainte? La réponse est dans notre verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui, le remède face à la crainte, c'est en acceptant la bonne nouvelle. Quand nous acceptons la bonne nouvelle de Jésus, ça met fin à la crainte dans nos fonds. Nous n'avons plus peur. Et vous savez, je vous annonce une bonne nouvelle dans le grec. Hein, je peux traduire, mais ce n'est pas comme ça en français, mais je peux traduire. Je vous bonne nouvelise. Littéralement, le grec. Je vous bonne nouvelise. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui, la bonne nouvelle est que par la foi en Jésus-Christ, notre relation avec Dieu le Créateur est parfaite. Oui, parce qu'il nous voit parfaits à travers son Fils qui est parfait. Le standard de Dieu est élevé. Il nous déclare juste en Jésus-Christ car il nous voit à travers la justice de Christ mise sur notre compte. Donc il nous voit aussi juste que Christ le juste. Donc il n'y a aucune raison de ressentir de la crainte. Vous savez, le mot crainte, c'est phobos. D'où vient la phobie en français? Donc, il n'y a aucune raison de ressentir la phobie, ni aucune raison à avoir peur de Dieu. De peur qu'il me frappe. Non! Quand vous avez accepté par la foi Jésus-Christ le sujet de la bonne nouvelle, cette peur-là n'a plus raison d'être dans notre vie. Ni quoi que ce soit d'autre. Et vous savez, c'est intéressant que c'est le message qui est adressé au berger. Ne craignez pas. À ces différentes personnes que je viens de le dire. C'est une crainte néfaste, je dirais négative. Il doit être banni de la vie des croyants. Mais je fais une parenthèse, n'oubliez pas que la parole de Dieu nous exhorte aussi à cultiver un autre type de crainte dans nos vies, une crainte que je dirais positive, pas comme la phobie, phobos, mais une crainte, je dirais positive, qui doit caractériser la vie des croyants. Il s'agit de la crainte d'une révérence envers Dieu. Une crainte animée par le désir de faire la volonté de Dieu. De chercher à faire ce qui lui est agréable. Ça, à cultiver. Et la phobie, à bannir de notre vie. Et l'ange dit, ne craignez point. Juste quelques exemples pour illustrer nos principaux sujets de crainte. La peur d'être rejeté, n'est-ce pas? Vous pouvez être enfant à l'école, vous pouvez être un adulte au travail, vous pouvez être n'importe où. Une des peurs principales, c'est la peur d'être rejeté. Et c'est là que le message de l'ange pour nous est important. La bonne nouvelle est importante. On a besoin de le reprêcher, cette bonne nouvelle à nous. Oui, la peur d'être rejeté. Mais si je mets ma confiance totale dans l'amour de Dieu pour moi, ça me suffit. Alors, la peur de ce qu'en pensent les autres n'a aucune place. Parce que ce qui compte pour moi, je sais, même si je suis délaissé dans mon travail par les autres, même si on m'ignore, Dieu m'a aimé. L'amour de Dieu pour moi est là. Je mets toute ma confiance. Je me répète cela pour apaiser mon cœur des peurs de ce qu'on dira à les autres. N'est-ce pas? On a besoin de se prêcher soi-même l'évangile. Oui, la peur d'un avenir incertain, des événements fâcheux. Et oui. Ça, c'est un des principaux sujets de crainte aussi. Mais, si vous mettez votre confiance totale dans la bonté de Dieu, ça veut dire que Dieu ne voudrait jamais penser à me faire du mal. Dieu ne veut que mon bien. Et même les choses que je n'aime pas qui arrivent dans ma vie, quand j'y pense, je crois à un Dieu bon, il l'a permis parce qu'il veut mon bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les événements fâcheux. Quand vous mettez votre confiance dans la souveraineté de Dieu, qu'il est au contrôle même dans les petits détails de ma vie, il n'y a pas à avoir peur de l'incertitude de l'avenir. Vous dites, mais là, ça c'est vrai pour toi, mais tu ne me connais pas dans cette situation. Tu ne me. Et chacun, tu me. Chers frères et sœurs, le message de Noël, ne craignez point. Un point, c'est tout. On doit mettre notre confiance dans la bonté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et ce qui peut m'être arrivé, que Dieu le permet, c'est pour mon bien. Et je suis calme, serein, comme le petit bébé sur les mamelles de sa mère. Le psalmiste cite cela. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. Ne laissez pas la crainte vous enlever votre joie. Ne laissez pas la crainte vous voler votre joie. Oui, un des principaux sujets de crainte, c'est la peur de la mort. Quand je mets ma confiance dans l'Évangile, Jésus est venu parmi nous vivre pendant 3 ans et demi pour que sa vie soit visible devant tout le monde et pour qu'il soit qualifié le seul qui a accompli toute la loi de Dieu. On ne peut pas lui accuser d'avoir péché. Il n'a point de péché en lui pendant 3 ans et demi. Il est qualifié aux yeux de Dieu pour être le substitut, mon représentant. Et il est venu mourir à ma place. Pour payer les conséquences de mes péchés, l'enfer que je mets. Et Dieu l'a ressuscité pour notre justification, moi, déclaré juste. Alors là, je sais que si la mort viendra, peut-être là tout de suite après que je prêche, Paul disait, c'est un gain. Parce que je suis devant la présence du Seigneur pour toute l'éternité. Et alors, la mort, je n'ai pas peur. J'en parle à vous, souvent ici, devant vous. Je n'ai pas peur. Au contraire, c'est le passage pour vivre dans la présence réelle de Jésus-Christ pour toute l'éternité. Magnifique. Alors, si vous mettez votre confiance dans l'Évangile, souvent on croit que l'Évangile, c'est pour les non-chrétiens. Oui. Mais c'est pour les chrétiens, on a besoin de le prêcher. Parce que les sujets de crainte, hein, on le vit tous, croyant ou pas croyant. Et Dieu nous donne la clé. Reprêche toi-même l'évangile à toi pour que ces craintes n'auront plus raison d'être dans ta vie, doit être bannie. Mais au contraire, cultive la crainte, la révérence, la crainte pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Ça, c'est le message de Noël. Dernier sujet que nous pouvons imiter des bergers pour répondre au message de Noël. Oui, l'ange dit, il est possible de faire la paix avec Dieu. D'être en paix avec Dieu. Verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Qui sont les hommes que Dieu agrée? C'est ceux qui ont choisi de croire et mettre leur confiance en Jésus-Christ. Le message de Noël est pour tout le monde. C'est comme si, dans une grande surface, on vous invite, on vous met des tas de choses, des boissons, tout ce que vous voulez. L'autre vous invite, servez-vous. Il a été offert pour tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui ont pris, qui sont apaisés leur soif, de frein, n'est-ce pas? C'est exactement pareil. L'évangile, c'est le message pour tout le monde. Mais ce que Dieu a agréé, c'est uniquement ceux qui mettent la confiance en Jésus-Christ. C'est tout. Et ça passe par la paix avec Dieu. Oui, donc on peut vivre maintenant sans crainte parce que la paix avec Dieu est rendue possible par Jésus-Christ. Attention, notre définition de la paix. La paix n'est pas une vie sans problème. La paix signifie fin d'une hostilité. Hostilité entre moi et Dieu que j'ai offensé par mes péchés. Oui, du point de vue spirituel, l'homme est en hostilité avec Dieu. Pourquoi? Parce que le péché en nous nous pousse à être hostile à l'autorité de Dieu. On refuse son règne sur nous pour qu'il soit le maître de notre vie. Vous voyez? Le psalmiste dit, quand Dieu appelle, donne-moi ton cœur. Dieu ne cherche pas vos biens. Dieu ne cherche pas vos qualités. Dieu ne cherche pas vos talents. Dieu cherche votre cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est une métaphore pour parler de votre propre vie. L'essentiel de votre vie. Et vous savez, l'hostilité envers l'autorité de Dieu peut se manifester de diverses façons. Juste pour illustrer, celui qui n'est pas croyant, eh bien, pour montrer le désir volontaire de dire « je n'ai rien à faire avec Dieu, je suis assez sage pour gérer ma vie », eh bien, il dit « je veux vivre ma vie comme je l'entends ». Dieu exclut de ma vie, de mon inconscient. Vous pouvez le manifester comme ça. Vous ne le dites pas, mais vous le faites. Peut-être vous êtes un peu plus religieux, vous dites « Oh oui, je vais obéir à ce que Dieu me demande, ok, mais, il doit me bénir. J'ai fait l'effort, hein. » Vous ne parlez pas à moi, vous parlez à lui, ou dans votre cas. Ouais, je fais ce que Dieu me demande, oui, je obéis, mais en contrepartie, j'attends que qu'il fasse quelque chose, hein, quand même, hein. Et oui, ça c'est une manière aussi de montrer notre hostilité envers Dieu. En manipulant Dieu par un acte, soi-disant, de confiance. On ne le dit pas, mais on le fait souvent. On le pense, n'est-ce pas? C'est avec honte qu'on peut le dire devant Dieu. Ça montre le refus de l'autorité de Dieu pour ma vie. Je suis assez grand pour gérer ma propre vie. Et qu'est-ce que j'entends beaucoup de ça, n'est-ce pas? Attention, cela marque mon indépendance vis-à-vis du Créateur. Dieu vous a créé pour le glorifier. Dieu vous a créé pour qu'il soit le maître, le propriétaire de votre vie. Et penser de telle manière, c'est manifester l'hostilité de son autorité, tout simplement à cause du péché en nous. Et parfois, subtil, en manipulant Dieu, je peux faire, mais vous savez, manipuler Dieu, ça s'appelle, c'est un péché, et ce péché est qualifié de tenter Dieu. Paul en parle. Attention! Et vous savez, pour terminer, la bonne nouvelle par l'ange au berger est aussi d'actualité aujourd'hui. Verset 10 et verset 11, l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Oui, si vous êtes en hostilité avec Dieu, vous avez besoin de jeter vos armes et de venir à Jésus-Christ. Le sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. Et ces passages, remarquez, cinq choses hein, qui est cité ici. Aujourd'hui, ça indique un moment précis de l'histoire de notre humanité. Oui, un moment préparé depuis l'éternité, celui de la naissance de Jésus le Sauveur. Première chose, aujourd'hui, c'est été préparé depuis toutes les années. Verset 11, dans la ville de David, ça indique un lieu. Quelle est cette ville? Bethléem, qui est annoncée par le prophète Michée que nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est la lecture du passage. Mais je fais une petite allusion aussi pour nous. Vous savez, comme pour une naissance physique, il y a aussi lieu dans notre vie une naissance spirituelle. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Pas forcément dans un lieu de culte. Ça peut être à la maison. Ça peut être au magasin. Ça peut être au travail. Ça peut être n'importe où. Oui. Cette chose, cette nouvelle naissance spirituelle doit être un fait, une réalité dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible parle des exemples. Damas, pour Paul, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, en train d'aller prendre la décision de persécuter les chrétiens. Rappelez-vous du geôlier, c'était à la sortie du prison. Le moment de sa nouvelle naissance. Rappelez-vous de Lydie. Eh bien, c'est au bord d'une rivière, en train de prier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être vous dites, oui, on ne se souvient pas du lieu, d'accord, mais sachez-le qu'il y en a un dans votre vie, si vous êtes vraiment en Jésus-Christ. Troisième chose qui est dit, il vous est né. C'est un événement. L'enfant vous est né. Ésaïe 9, 5, tout à l'heure, nous avons lu, l'enfant nous est né, mais le fils nous est donné. Vous voyez la différence? L'enfant que nous voyons de voir l'histoire et les réactions des bergers concernant cet événement, il est né. C'est-à-dire que le fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a quitté la gloire céleste et est venu prendre chair comme nous, hormis le péché. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il vous aimait. Vous aimez, c'est pour vous. Quatrième chose que je relève, un sauveur. Ça indique une personne. Vous savez, Zacharie dit ceci dans Luc 1,69, nous lisons, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Les anges chantaient en Matthieu 1, 21, « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Il sauvera. Jésus, ce nom, Jéhovah sauve. Jéhovah le sauveur. Il peut être votre sauveur aujourd'hui. Ne tardez pas, venez à lui. Pour que l'hostilité soit tombée. Et que vous l'acceptez comme le roi, le maître de votre vie. Il vous aimait. Un sauveur. Et ce sauveur est le Christ, le Seigneur. Attention, c'est, quand on dit le Christ, le Seigneur, ce n'est pas un deuxième prénom de Jésus. Hein. Nous avons des prénoms, deux ou trois, mais ici, ce n'est pas un prénom, c'est un titre, une position. Ici, le mot Christ, c'est loin, ce que Dieu a choisi. Le Messie. Le Messie est venu, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est venu en tant que Messie pour une première fois. Le Messie souffre. Mais il viendra une deuxième fois en tant que Messie triomphant. Ne le rejetez pas. Acceptez-le. Et remettez-lui votre vie. Le message de Noël est merveilleux, mes frères et sœurs. Nous pouvons connaître Dieu parce qu'il s'est révélé à nous. Ce qu'il faut remarquer, de Dieu ne nous a pas seulement donné des informations sur Jésus. On en a assez d'informations ce matin, n'est-ce pas? Mais plus que cela, Jésus s'est inscrit dans les événements de l'histoire. Il a chamboulé l'histoire. avant, même quand on date les événements chronologiquement, on dit ça c'est avant Jésus-Christ et ça telle année après Jésus-Christ. Il a chamboulé l'histoire. Il a marqué l'histoire par son passage. Il est venu dans notre monde pour nous sauver et mourir pour nous, pour payer les conséquences de nos péchés. Noël signifie qu'il est possible de faire la paix avec Dieu. Ce matin, vous pouvez faire la paix avec Dieu et être en paix aussi avec les hommes. Ça découle de soi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Vous voulez être, avoir l'approbation de Dieu? Vous voulez être agréé par Dieu? Mettez votre vie entre les mains de Christ le Seigneur. Laissez-lui être le maître de votre vie. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.